Alors on arrive à ce beau verset, le verset 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses travaillent ensemble. Ce travail ensemble, c'est synergéo, donc c'est vraiment travailler avec, travailler ensemble, comme on a Marc 16, le Seigneur coopérant avec eux, ou bien Jacques 2, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc c'est vraiment un travail, ça, c'est les unes s'ajoutent aux autres et il y a plusieurs éléments et toute chose, tout ce qui nous rencontrons dans nos vies, eh bien, on contribue à ce que Dieu veut faire et contribue au bien, le bien de ceux qui aiment Dieu. Genèse 50, c'est Joseph qui parle à ses frères, vous, vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui se réalise aujourd'hui afin de conserver la vie à un grand peuple. Pourtant, quel chemin que celui de Joseph, à travers toutes les étapes de sa vie, quelle souffrance aussi. Et à la fin, il voit la main de Dieu, il voit que toutes ces choses ont travaillé ensemble, se sont imbriquées comme un engrenage, sont venues, tout a bien fonctionné ensemble pour dire oui, mais c'est Dieu et il l'avait pensé en bien. Et le psaume 57, je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Quel encouragement de savoir que Dieu a en vue le bien de ses enfants, de ceux qu'il aime. C'est ceux qui aiment Dieu. Habituellement, on met en avant son amour, bien sûr, pour nous. Et c'est bien clair. Et il aime tous les hommes. Simplement, ici, ce qui est précisé, c'est que ce sont en fait les croyants, ceux de sa famille, ceux qui aiment leur Dieu, au sens qui font partie de notre chapitre, les adoptés, ceux qui seront glorifiés, tout cela. Et c'est de cela dont on parle. C'est notre sujet, on est dans l'espérance de la gloire, la souffrance, oui. Mais il y a la gloire, et en attendant, tout ce qui se passe va contribuer au bien. Et charge à nous de le reconnaître, de le voir, comme Joseph a su le faire quand il a réfléchi à sa vie, à la lumière de tout ce qui s'était passé. Toutes choses servent Dieu, psaume 119, verset 91. Bien Jérémie 29, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Ou Deutéronome 8, à propos du peuple, l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher dans le désert afin de t'humilier et afin de t'éprouver, voilà, c'est notre sujet, mais pour te faire du bien à la fin. Et puis Monsieur Benetro, a une pensée par rapport au bien. Ce n'est pas au croyant de décider ce qui est bon pour lui, il se tromperait. Le bien est celui que seul Dieu connaît dans sa plénitude. Et donc, il y a aussi un côté de lui faire confiance, de savoir ce qui sera le bien pour nous. Alors que si on s'interfère en disant que non, ça c'est pas bien, eh bien, on va manquer quelque chose. Donc, il y a un côté, dans ce verset, il y a aussi un côté, je m'abandonne entre les mains, entre les bras de celui qui veille sur mon bien et qui va l'amener et qui va conduire toutes choses à s'imbriquer, à travailler ensemble, à coopérer pour obtenir ce bien. Quel beau verset que Romains 8, 28. Et il fait le lien donc entre 28 et 29, ceux qui sont appelés selon son dessein, ça lui permet d'introduire une chaîne qu'on appelle la chaîne d'or avec cinq maillons. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc les cinq maillons de la chaîne d'or, préconnus, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et toutes ces pensées-là, eh bien Dieu les a eues quand rien n'était créé, aucun homme ne vivait sur la terre, le péché n'était pas encore dans le monde, et à la fin, Dieu atteint son but. Il a préconnu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Alors, ce sujet de prédestination, préconnaissance, prédestination, crée bien sûr des questions. Et des questions qui animent l'Église quand même depuis une vingtaine de siècles. Donc, ce n'est pas ce soir qu'on va tous les résoudre, évidemment. Alors, je propose d'abord un tout petit schéma qui, moi, peut-être depuis mes études de télécom, je ne sais pas, où il y avait la notion d'un signal, et puis on prend le signal et on le met derrière, et puis ça tourne. Ça me paraissait tout naturel, tout simple. Ben, cette jeune fille, ici, elle est appelée. Elle est justifiée. Elle est glorifiée, elle sera conforme à l'image du Fils. C'est merveilleux, cette jeune fille, quand elle a dit oui à son appel, eh bien, il y a un signal qui est parti dans le passé, et elle était préconnue. Et sachant cela, eh bien, elle a été prédestinée. Prédestinée à quoi? Mais prédestinée à être conforme à l'image de son Fils. Donc, tout est dans le positif dans ce texte. Les cinq maillons, ces cinq maillons d'une chaîne d'or positive, c'est vraiment prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. Donc voilà un petit schéma tout simple qui explique que cette prédestination, c'est pour but, évidemment, de nous amener là. Et cette jeune fille, quand elle a été appelée, oui, elle a pris une décision, elle s'est rendue au Seigneur, et cette chose-là étant préconnue, eh bien, elle est prédestinée. Alors, c'est très bien ce schéma, mais il faut accepter le commentaire de chrétiens qui voient les choses un petit peu différemment. Et donc, c'est cette partie ici. Ceux qui craignent que l'être humain soit écrasé par la souveraineté divine insistent sur une prédestination informée par une préconnaissance. C'est exactement ça. Cette prédestination-là, elle est informée par une préconnaissance d'une décision ici, là on va dire la liberté de l'homme de dire oui à l'appel. Et donc quand on a très peur d'une prédestination qui serait trop contraignante, alors on se réfugie peut-être dans ce genre d'explication qui, moi, pourtant, dans ce passage, m'a l'air assez adapté, puisque le passage nous parle de préconnaissance. Ce n'est pas la même chose qu'Éphésiens 1, qui, lui, va nous parler d'élection. Et là, évidemment, l'élection reste entièrement posée dans la souveraineté de Dieu. Mais dans ce passage-là, il me semble que ce schéma peut s'appliquer assez bien. Ceci étant, donc on continue à lire ce commentaire ici de M. Bénétreau. Donc, ceux qui craignent que l'être humain soit écrasé par la souveraineté divine insistent sur une prédestination informée par une préconnaissance. Ça, c'est le modèle que j'ai présenté. Mais ceux qui redoutent que la liberté et l'autorité divine ne reçoivent pas le respect qui leur est dû, donc la liberté de Dieu, l'autorité de Dieu, craignant qu'on leur enlève quelque chose, alors sont attachés à la primauté de la prédestination, ajoutant que c'est la seule façon de préserver l'absolue gratuité du salut. Puisqu'évidemment, certains vous diront, oui, mais si cette jeune fille, en disant oui, contribue à être justifiée, glorifiée, alors c'est un peu aussi l'œuvre de la jeune fille. C'est une extrapolation qui va loin, ce n'est pas du tout, bien sûr, ce que l'on veut dire en expliquant que elle est préconnue, prédestinée. Mais voilà un peu le débat. Je le mentionne parce qu'il est très important, quand nous commentons la parole, de rappeler les différents grands débats qui peuvent avoir lieu parmi les chrétiens, de ne pas les cacher. Ceci étant, personnellement, je suis plus à l'aise avec le petit schéma que j'ai présenté, surtout dans notre texte, hein. On n'est pas en train d'étudier le chapitre 1 des Éphésiens. Maintenant, autre point très important, Monsieur Geblein, qui nous dit qu'il n'y a jamais de prédestination à être condamné. Parce que ça serait complètement contradictoire, alors, avec 1 Timothée 2, par exemple, le Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance. Donc, de toute façon, si le sujet prédestination, préconnaissance, élection sont des sujets difficiles, il y a une chose certaine, c'est que personne n'est prédestiné à être perdu. On est prédestiné à être conforme à l'image de son fils. Il n'est jamais question d'être prédestiné à être condamné. Alors, afin qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères, c'est comme si Dieu souhaitait une grande famille. Prêt, conforme à l'image de son fils, pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères, il souhaitait une grande famille. Le titre de premier-né ayant un caractère plus de primauté que, évidemment, de naissance, c'est pas tellement sa naissance par Marie qui est ici en vue, c'est son côté premier et son côté de primauté. Par exemple, Colossiens 1, lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, pas au sens que il a commencé un jour à naître, non, non, mais il a ce rôle d'autorité, ce rôle tout à fait particulier d'être le premier-né, d'être la personne la plus importante dans la création et au-dessus, bien sûr, de la création. Il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, lui, il tienne la première place. Donc là, c'est bien le fait qu'il a été le premier sorti de la résurrection des morts au sens de la résurrection vers la gloire. On ne parle pas ici des quelques personnes qui sont revenues à la vie, mais qui ensuite sont décédées une deuxième fois, mais on parle vraiment de sa résurrection à lui. Il est à ce titre le premier-né d'entre les morts, et de nouveau, c'est un titre honorifique. Il porte la couronne, on va dire, il porte le rang de premier-né, lui qui tient la première place. Hébreux 1, il introduit le premier-né dans le monde, là aussi son titre officiel, et Apocalypse 1, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, qui rejoint celui-ci, et le prince des rois de la terre. Voilà, on a donc fini la partie espérance de la gloire, qui était donc la quatrième partie dans le découpage que nous avions proposé, et nous arrivons dans la dernière partie du chapitre, que nous avions appelé aucune séparation de l'amour de Dieu. Cela faisait écho avec la première partie qui était aucune condamnation pour le croyant. Et maintenant, il n'y a aucune séparation de l'amour de Dieu pour le croyant. Et c'est un très grand programme. Que dirons-nous donc devant tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais bien plus, qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Alors Dieu est pour nous. Quelle déclaration! Jacob avait dit à ses fils dans l'affaire de Joseph, toutes ces choses sont contre moi. Ou bien Sarah, en Genèse 16, elle dit à son mari, mais tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Est-ce qu'il nous arrive de penser que Dieu est le Dieu qui empêche? Est-ce qu'il nous arrive de penser que Dieu est contre nous ou que les circonstances permises par Dieu sont contre nous? Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle déclaration! Alors, celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, peut-être une allusion au sacrifice d'Isaac. Effectivement, on a Abraham qui n'a pas épargné son propre fils. Et Dieu le souligne, dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Et Dieu, bien sûr, intervient pour qu'il n'offre pas son fils. Ligne rouge absolue dans l'Ancien Testament, d'offrir des enfants. Mais donc il y a à la fois cet enseignement-là, mais il y a aussi le fait que Abraham aurait été prêt à ne pas l'épargner. En Zacharie 12, ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Si on perd un fils unique, si on perd un premier-né, quelle tristesse, quelle amertume. Il n'a pas épargné son propre fils qui est son fils unique. Et d'ailleurs, c'est normal d'épargner son fils. Malachie 3, verset 17. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Seigneur Jésus a servi son Père. Mais un homme épargne son fils qui le sert, c'est ce que Dieu déclare au prophète Malachie. C'est bien normal. Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils. N'oublions pas de lire ce beau verset occulte. Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous tous. Le Père ici livre le Fils. Et en Éphésiens 5, verset 2, le Fils s'est livré lui-même pour nous. Le Père livre le Fils ici. Et en Éphésiens 5, verset 2, le Fils s'est livré lui-même pour nous. Comment alors ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses? C'est un argument à fortiori. C'est-à-dire que s'il a tout donné, s'il n'a pas épargné, s'il a livré, eh bien alors c'est tout naturel qu'il va donner aussi. Et c'est un argument a fortiori utilisé par le Seigneur Jésus quand il parlait des soins de Dieu pour les moineaux, Matthieu 10, ou pour les lys des champs, Matthieu 6, pour dire à ses disciples, mais n'ayez pas crainte pour votre vêtement ou pour votre nourriture, puisque Dieu s'intéresse aux moineaux ou bien aux lys des champs, eh bien, vous-même, c'est évident, a fortiori, vous êtes objet des soins de Dieu. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement s'il a livré son propre fils qu'il n'a pas épargné? Alors, qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Cette accusation, c'est, on pense évidemment à Satan, qui est l'accusateur des frères, d'après Apocalypse 12. Et il l'a montré dans Job 1 et dans Zacharie 3. Job 1, et aussi un peu plus tard, Job 2, Satan répondit à l'Éternel et dit, ai-je pour rien que Job craint Dieu, puisque tu l'as entouré d'une haie de protection, etc. Et il y reviendra encore deux fois. Donc Satan accuse, Satan se met contre les croyants. Et dans Zacharie 3, il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et Joshua, le sacrificateur, a des vêtements sales. Et en fait, dans ce texte, Satan n'a pas la parole, il n'a même pas le droit de parler. Et pourtant, l'Éternel le tense, le réprimande en disant que l'Éternel te tense. Donc, on a une accusation contre les élus de Dieu, une accusation contre les frères, contre les chrétiens, par le diable. Et alors, on y est vite sensible quand on s'accuse soi-même, en particulier si on a péché, si on est tombé. Alors, on se sent totalement indigne et on entre bêtement dans cette accusation. Alors qu'on l'avait commenté brièvement il y a 2 semaines, il n'y a de toute façon aucune surprise qui nous arrive de tomber, malheureusement. Si nous avions de la surprise, si nous avions de la déception, c'est qu'on croyait encore qu'il y avait du bien au fond de nous. Mais la chair, l'homme pécheur, lui, il est incurable. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que si on a péché, eh bien, on se relève par la confession des fautes et l'application de la parole et par la prière. Peut-être même dans certains cas, on a besoin de l'aide de frères, d'une sœur, pour nous accompagner dans un chemin de restauration. Mais quand la restauration a lieu, eh bien, il ne faut pas qu'on continue à s'accuser parce que nous ferions alors l'œuvre ici de l'accusateur. Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'accuser, c'est Dieu. Or, celui qui est le seul qui aurait le droit d'accuser, puisque le péché, il est toujours contre Dieu. Luc chapitre 15, le fils prodigue, quand il revient, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Donc j'ai péché contre Dieu et devant toi. Et même si nous avons fait du mal à quelqu'un, l'offense, le péché, il est d'abord contre Dieu. Donc le seul qui accuse, c'est Dieu. Et il se trouve que c'est Dieu qui justifie. Voilà. Alors qui intentera une accusation? Puisque c'est Dieu qui justifie. Ensuite, qui est celui qui condamne? Eh bien, non, on ne va pas être condamné, parce que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, de nouveau, quatre étapes. Donc, Dieu justifie. Qui peut bien condamner? Ça, c'est un écho au premier verset du chapitre. Il n'y a pas de condamnation. Et si notre expérience change, eh bien, la justification, elle, ne change jamais. Dieu justifie, qui peut donc condamner? Donc, même si on ne le ressent plus, même si on a des doutes, même si on s'accuse soi-même, la justification, elle est définitive. C'est une œuvre de Dieu, totalement indépendante de nous. Donc, qui peut bien condamner quand Dieu justifie? Qui peut accuser, qui peut condamner. Le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. On a là, de nouveau, une belle succession d'étapes dans l'œuvre du Seigneur et dans son action aujourd'hui. Et nous avions eu au début du chapitre, ou tout à l'heure dans notre lecture, pardon, l'intercession de l'Esprit, hein, par les soupirs inexprimables, et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc on a l'intercession de l'Esprit, et voilà maintenant qu'on a l'intercession du Fils. Le Seigneur Jésus l'avait fait déjà pour Pierre en Luc 22. Quand il a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Voilà un exemple d'intercession. Il parle, Seigneur Jésus parle continuellement de toi avec Dieu. C'est une citation de Gerd Koenig. Il parle continuellement de toi avec Dieu parce qu'il sait par sa propre expérience combien il est difficile de vivre dans un monde qui ne tient aucun compte de Dieu et de sa parole. Donc il intercède. Nous sommes objet de conversation entre le Fils et le Père. Et ce chapitre, donc, ce que je disais tout à l'heure, à ce titre, est un traité sur la Trinité, puisqu'on a ici une relation Fils-Père d'intercession, et on avait par exemple l'intercession de l'Esprit, l'intercession du Fils. Donc, un autre exemple où les trois personnes de la Trinité sont à l'œuvre. Verset 35. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est le chant final. C'est le chant final du chapitre. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de boucherie. Qui est une citation. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Notre Seigneur. Quel chant de victoire finale à la fin donc de ce très grand chapitre. Cet exemple de la vie de Paul, tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée. De la vie de Paul, parce qu'il les a tous vécus. Mais ça peut aussi être, bien sûr, des éléments généraux, des exemples qu'il prend. Mais enfin, d'autres épîtres nous montrent, aussi un petit peu les actes, qu'il a vraiment traversé toutes ces épreuves-là. Et ça montre un peu la dimension, parce que épée, hein, pas beaucoup d'entre nous, peut-être quelques-uns de nos auditeurs ce soir, mais pas beaucoup d'entre nous n'avons vraiment vécu peut-être l'épée, la famine, le dénuement, le péril, la persécution, une détresse, une tribulation. Donc, c'est des mots qui sont en fait très forts. Donc, il a pris peut-être cet exemple de sa vie et puis il nous donne aussi une citation qui montre que tous les jours, tout le jour, estimés comme des brebis de boucherie, mis à mort. Donc, qui montre qu'en fait, la souffrance, les difficultés ne sont pas du tout épargnées aux croyants, et déjà dans l'Ancien Testament. Mais par contre, son amour nous tient tout près de lui. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Et les exemples qui sont donnés, plus le verset, hein, comme si l'apôtre apportait un verset pour donner du poids à sa liste, eh bien absolument rien de la souffrance, absolument rien des circonstances difficiles qui font partie de notre vie et qui ne nous sont pas épargnées, jamais, jamais rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Il nous tient tout près de lui. C'est presque un amour conjugal. C'est un amour très, très, très lié. Il n'y a pas de séparation, on est ensemble. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà une autre déclaration. Hyper Nikao, nous remportons une victoire totale. Nous sommes hyper vainqueurs. Hyper Nikao. Hyper vainqueur. C'est un beau verbe celui-là. Hein? Nous remportons une victoire totale. Nous sommes hyper vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je suis assuré que Ni mort, il y a de nouveau une liste. Cette fois-ci, c'est 10 éléments. Alors, c'est difficile à classer, mais peut-être quelques exemples en passant. La mort, ça peut être la mienne, ça peut être celle de mes proches. La vie, ben, toutes les circonstances, tout ce par quoi nous vivons. Anges et puissances, peut-être qu'on peut les regrouper dans les puissances célestes. Notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Peut-être qu'on peut y voir ici les puissances célestes. Pouvoir, peut-être qu'on peut y voir les autorités sur le monde, celles qui sont au-dessus de nous. Ça peut être notre chef, ça peut être des gens qui ont autorité au-dessus de nous, mais ça peut être aussi peut-être nos gouvernements. Les choses présentes et les choses à venir, mettant, sont en sa main. Hauteur, profondeur, peut-être que la profondeur, ça peut être la profondeur de mes chutes, justement. La hauteur, ça pourrait être ces grandes choses qui m'impressionnent. Ou bien ces montagnes que je crois infranchissables. Et puis, on pourrait dire, ça se termine par le dixième, c'est ni aucune autre créature, comme pour nous dire, ben, si la liste est incomplète, il n'y a personne. Est-ce que tu as bien compris? Il n'y a personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu as bien compris? Et on peut le relire. On n'est pas sûr du tout que c'était effectivement un vrai cantique que l'apôtre aurait emprunté pour mettre ici à la fin de son chapitre. C'est peut-être vraiment sa propre composition. Mais c'est vraiment, ça revêt presque un caractère de cantique. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, si on re-réfléchit à tout le chapitre, il n'y a pas eu de condamnation au début grâce à la justice donnée par Dieu. Il n'y avait pas d'obligation de pécher grâce au Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Il n'y avait pas de frustration dans la souffrance parce que nous partageons la gloire. Et puis il n'y a pas de séparation parce que nous éprouvons l'amour de Dieu. C'était les quatre parties que proposait M. Wiersbe dans son découpage du chapitre et qui, je trouve, nous permettent de revoir tout le chapitre avec une vision un petit peu hélicoptère. Et c'est vraiment très beau. Et Marc Allauvent, Alain Bonnet termine en citant ce cantique, Amour de Dieu, qui peut décrire ta plénitude et ta beauté pour te chanter et pour te dire, il nous faudra l'éternité. Donc voilà effectivement la bibliographie utilisée. Et je vous remercie de votre attention.
Merci encore Frédéric pour cet exposé de tout ce chapitre et en particulier pour cette partie que tu viens de faire maintenant. C'est aussi très appréciable d'avoir toujours une bibliographie et de voir des ouvrages consultés. Donc merci aussi de la mettre à disposition. Et puis, j'aurais proposé qu'on profite de répondre à quelques questions qui ont été posées. Notamment sur ce verset que tu as pu commenter, pardon, ceux qui ont été préconnus, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et cette question qui revient finalement assez souvent, ou dont tu as déjà un peu parlé, mais ça vaudrait peut-être la peine d'en redire quelque chose. Dieu a-t-il prédestiné certains pour la honte éternelle, respectivement pour l'enfer?
Donc la réponse est non. Hein? Donc si nous avons des difficultés avec notre esprit limité à concevoir l'immensité de la personne de Dieu, de ses conseils, de ses pensées, ce n'est pas une surprise. Pas du tout une surprise. Donc il n'y a pas d'étonnement à avoir. Donc quand on a un sujet comme ce qu'on a lu là, prédestination, et que ce mot nous fait peur, Il y a une chose en tout cas qu'on n'a pas le droit de dire, c'est une chose contraire à l'Écriture. Et comme on a lu tout à l'heure, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils viennent à la repentance, eh bien, ce serait contradictoire que de dire qu'il a prédestiné certains à être perdus. Et en plus, bien sûr, une telle phrase est totalement absente de l'Écriture. On a un peu plus loin dans les Romains, au chapitre 9, quelque chose qui rentre un peu dans le sujet entre par rapport au peuple juif et aux nations. Le potier, hein, chapitre 9, verset 21, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction. Il n'est pas du tout dit que c'est Dieu qui les a préparés pour la destruction. Ils se sont préparés eux-mêmes, malheureusement. Hein? Tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, lesquels aussi il a appelés, savoir nous, etc. Donc voilà un autre exemple où il n'est pas du tout dit que Dieu aurait préparé des gens pour la perdition. Et donc, si le sujet de l'élection, que Dieu a élu des personnes, ou que la prédestination, dans notre chapitre, c'est il a préconnu. Donc, il savait ce qui allait se passer. Et donc, sachant, connaissant l'avenir, il peut prédestiner, il peut destiner la personne à la gloire. Mais on est vraiment dans la description de ce qui est prévu pour le croyant. Mais pas du tout, on n'est pas du tout dans le sujet de l'incrédule. Et si on n'arrive pas à concilier, c'est normal.
Il y a une question justement, quelle différence faire entre la prédestination et l'élection?
Ça commence à être un peu technique. Donc, je pense effectivement que dans notre chapitre, c'était la prédestination. Et dans notre chapitre, on a vraiment, c'est ce que je proposais, préconnu et prédestiné, c'est-à-dire je destine à l'avance, je sais la direction, je donne la direction. La direction, c'est être conforme à la gloire. Donc, c'est là où l'on va, on sait où l'on va. Et ensuite, ça va se passer, appelé, justifié, glorifié. Et donc, je connais le cap, ça c'est prédestination. Alors que l'élection d'Éphésiens 1, évidemment, c'est la souveraineté absolue de Dieu. À la fin, quand quelqu'un a été sauvé et qu'il se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi j'y suis? Eh bien, c'est vrai que toute la gloire doit revenir à Dieu. Et en aucun moment, la personne sauvée, la personne qui se retrouve au paradis, se dit « Waouh, l'œuvre du Seigneur, c'est formidable. » Bon, heureusement que j'ai dit oui quand même, hein, ça a bien fait. Hein. Non, ça, même ça, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que au moment où on se retourne et qu'on est émerveillé par le fait d'être dans la présence du Seigneur, eh bien, tout vient de lui. Et c'est là qu'on se dit « Voilà, mais en fait, j'ai été élu. » Mais bien sûr, le sujet de et est-ce qu'il y en a qui ne sont pas élus n'est pas là. Il n'est pas là. Le sujet, c'est pour moi qui suis élu. C'est pour moi qui y suis. Alors je me retourne et je me dis, mais d'où je viens? Mais c'est le Seigneur qui a tout fait. C'est même lui qui m'a tiré. C'est même lui qui a agi dans mon cœur pour me. Pour... Et pourtant, il force personne. Donc on comprend toujours que c'est multidimensionnel et que ça nous dépasse. Et c'est là qu'il faut rester humble, puisque ça nous dépasse. Il n'y a pas de surprise, puisque c'est divin. La Trinité aussi nous dépasse. Et pourtant, on en a vu ce soir plein d'exemples.
On peut peut-être aussi profiter d'ajouter que le terme élection est utilisé dans l'Ancien Testament abondamment. Il est aussi utilisé dans le Nouveau Testament et extrêmement rarement quant au salut. C'est simplement parfois Dieu qui choisit une personne pour une mission et un privilège particulier. Et on a des choses étonnantes. Si vous faites une fois une étude sur ce sujet, je vous conseille de lire Peter Kay, Election and Predestination. C'est en train d'être traduit en français. Peter Kay est un frère large du Canada qui a écrit un livre qui étudie justement le sens de élection et prédestination dans toute la parole de Dieu. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on a souvent restreint cette notion au salut, alors qu'elle est le terme d'élection est utilisé pour bien des tâches. Par exemple, Judas a été élu, Saül a été élu pour une mission particulière, quelque chose de particulier que Dieu avait pour eux. Et je trouvais que c'est aussi peut-être intéressant d'ajouter ce point. Une autre question, Romains 8, versets 35 à 39, semble plus évoquer explicitement au moins des dangers extérieurs. Sachant que nous sommes souvent notre pire ennemi, pourrait-on s'endurcir au point de se séparer de l'amour de Dieu?
Je ne sais pas trop si on est vraiment nos pires ennemis. Hein? Autant on a vu au début du chapitre que oui, il y a la question de la chair, etc. Mais la victoire qui nous est proposée au début du chapitre, la liberté qui nous est proposée parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous montre qu'on n'est pas du tout nos pires ennemis. Que le Saint-Esprit habite en nous et que nous sommes appelés à une vie de liberté. Aucune condamnation et on marche avec l'aide du Seigneur. Et donc, je ne pense pas du tout, je crois que le sens du chapitre, de notre fin de chapitre, c'est que les listes ne sont pas exhaustives et que si on a bien compris, absolument rien de rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur.
Parfait. Merci, cher Frédéric, pour cette présentation de ce soir et puis il y a 2 semaines. Beaucoup apprécié de t'avoir avec nous pour donc ce dernier cours de Biblos de cette session qui a débuté fin août et qui s'est prolongée jusqu'à maintenant au mois de janvier. Comme à l'habitude avec Biblos, on va avoir une pause qui va nous mener jusqu'à l'été. Et puis, on vous proposera l'automne prochain de prendre les chapitres 9 au chapitre 16 de l'évangile des Romains. On a fait là l'évangile décrypté. Du chapitre 1 au chapitre 8, on a vraiment répondu à la question, qu'est-ce que l'évangile? Du chapitre 9 au chapitre 16, on va voir comment l'évangile se met en pratique et on intitulera cette série L'évangile appliqué. Alors, on se réjouit de vous partager tout cela quand le planning sera connu, certainement un peu avant l'été. Et puis, vous pourrez vous inscrire pour continuer avec nous cette étude des chapitres 9 à 16 de l'Épître aux Romains, qui est une des épîtres, je crois, les plus importantes du Nouveau Testament, en tout cas pour bien comprendre ce qu'est l'Évangile et comment cet Évangile, après, peut être mis en application aussi dans nos vies. Alors, on se réjouit de cela. J'aimerais encore faire une dernière annonce. Biblos va organiser au printemps une conférence, un webinaire qui aura lieu quelque part vers fin avril, début mai, où nous traiterons de la question du culte de famille. Comment vivre un culte de famille, un moment biblique en famille aujourd'hui? C'est une pratique qui peut-être a été un peu lourde pour certaines générations, un peu difficile à supporter. Et puis malheureusement, par réaction, peut-être parfois, certains ont jeté, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Et puis on voit que ici et là, cette pratique, elle a un peu disparu. Respectivement, beaucoup de parents ne savent plus trop comment animer un tel moment, comment faire pour intéresser les enfants. Et nous allons vous proposer une session, une soirée sur ce thème-là, comment animer un culte de famille. Et nous aurons la grande joie d'avoir avec nous Mathieu Caron du Québec, qui est le directeur de la Fondation du Counseling biblique, et puis aussi Éric Desaulniers, également du Québec, qui est pasteur d'une église évangélique au Québec, et qui nous partageront donc ces deux pères de famille qui ont des responsabilités, qui ont aussi enseigné dans leur église justement un programme pour encourager les familles à avoir cette belle habitude, et puis avec des moyens, voilà, ils nous en parleront. Et je crois que ça sera vraiment une belle soirée. J'aimerais vous encourager, vous, peut-être des personnes de vos églises que vous connaissez, à participer à cette session. Bien entendu, le moment venu, on vous fera suivre toutes les informations. Vous pourrez les faire suivre plus loin si vous le souhaitez. Et ça sera ainsi la prochaine session Biblos particulière, spéciale, comment vivre un culte de famille. On se réjouit de vous donner toutes les informations dès qu'elles seront prêtes. Alors voilà, je voulais conclure aussi avec cela, non sans remercier très chaleureusement Claude-Henri André, qui a assuré toute la technique de toutes ces sessions, qui a à chaque fois pris contact avec l'orateur pour faire des essais, pour s'assurer que la connexion était bonne. Donc un grand merci Claude-Henri pour tout ton travail technique de suivi et aussi de mise à disposition des enregistrements sur la plateforme Biblos. Merci aussi à l'ensemble du comité qui a œuvrer pour ces soirées. Merci à vous qui étiez présents pour écouter. Parfois, c'est vrai, lundi soir, on est fatigué, on en a un petit peu marre. Donc, il fallait, j'imagine, de temps en temps, si vous êtes comme moi, un peu poussé. Merci de vous être poussé et j'espère que vous avez été enrichi, béni par la parole de Dieu. Alors, je vous propose simplement maintenant de conclure par la prière. Dieu notre Père, un grand merci de nous avoir rappelé des choses magnifiques sur l'Évangile tout au long de ces sessions Biblos. Merci de nous avoir rappelé que tu nous avais sauvés alors que nous étions tous condamnés. Merci aussi de nous avoir rappelé que tu nous destines à la gloire, tu ne nous condamnes plus. Et c'est tout des choses qui sont tellement importantes de saisir. Et peut-être que parfois nous les comprenons intellectuellement, nous les lisons, mais elles ont des fois souvent de la peine à descendre de notre tête à notre cœur. Alors nous prions pour tous les auditeurs de Biblos, que ça soit présent ici ce soir ou ceux qui écoutent sur la plateforme plus tard les enseignements. Nous te demandons, Dieu notre Père, que vraiment tu permettes que tout ce que tu nous as partagé de riche sur l'Évangile, sur tout ce que tu as fait de nous, tout ce que tu as fait pour nous, eh bien, que tout cela puisse ne pas seulement être une masse d'informations qui remplit nos têtes, mais puisse petit à petit descendre dans notre cœur et influencer notre être tout entier. Alors, nous te demandons que chacun de nous puisse aussi ainsi grandir dans la foi, grandir dans la profondeur de son amour pour toi, de cette magnifique œuvre du salut que tu as fait en notre faveur. Et nous voulons te demander de bénir ainsi chacun des participants, que ces enseignements puissent aussi être utiles pour être peut-être redonnés à d'autres d'une autre manière. Nous prions aussi pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans une chaîne de transmission et nous avons une responsabilité aussi de transmettre ce que nous avons reçu. Alors nous prions aussi pour tous nos auditeurs. Là où tu les places, Seigneur, dans les ministères qui sont les leurs, qu'ils puissent aussi retransmettre ce qu'ils auront compris de ta parole, ce qu'ils auront mis en pratique dans leur vie pour la bénédiction d'autres encore. Alors, nous nous remettons entre tes mains, chacun, pour la fin de cette soirée, et nous te remercions d'avoir pu la vivre ensemble. Merci aussi pour Frédéric qui a pris le temps de ces différents préparatifs, de ces deux présentations. Nous te demandons de le bénir ainsi que sa famille, son épouse, et nous te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, une excellente soirée, et puis vous aurez de nos nouvelles par email puisque nous avons vos coordonnées. À bientôt!